Bonjour, nous allons commencer. Merci d'être nombreux dans cet amphithéâtre pour poursuivre ou pour commencer cette conversation, ce colloque qui a donc démarré ce matin autour de dialogues très intéressants du côté des sciences exactes comme du côté des sciences humaines. Là, on va, pour ce premier dialogue de l'après-midi, ce troisième dialogue de ce colloque, on va passer dans une toute autre échelle, j'ai envie de dire, à la fois de temps et d'espace, autour de cette question de l'adaptation. Finalement, on va être plus peut-être que dans la transition, dans l'adaptation au changement climatique. Comment alors le vivant, d'abord dans son ensemble, les organismes vivants sur terre et sur mer, se sont-ils adaptés au fil du temps, alors très long, hein, qui se compte en milliards d'années? Comment le vivant s'est-il perpétué envers et à travers, j'ai envie de dire, tout ou presque? Ce sera avec le professeur Chris Bowler, qui était coordinateur scientifique du projet Tara Océan, professeur invité au Collège de France sur la chaire biodiversité et écosystème, qui va partager donc son savoir et ses interrogations en dialogue avec le généticien des populations Luis Quintana Murci, professeur au Collège de France sur la chaire génomique et évolution, professeur à Pasteur, qui nous dira lui aussi, alors cette fois-ci, comment nous les humains, nous le peuple humain, ça c'est le titre de votre livre qui vient de paraître, Luis Quintana Murci, comment nous, le peuple humain, nous sommes adaptés tout au long, alors pas des milliards, mais des dizaines de milliers d'années d'évolution de notre espèce et des autres formes humaines qui nous ont précédés. On va peut-être commencer là-dessus, professeur Luis Quintana Murci. La génétique des populations, votre spécialité, la génomique, mais aussi l'épigénétique, peut nous ouvrir des pistes de réflexion. Et comment, justement, pour nous éclairer sur les transitions et les adaptations à tous les changements que nos humanités ont traversés?
Donc déjà, on peut voir comme la sortie d'Afrique de notre espèce, c'est une des premières grandes adaptations. Comme vous savez, l'origine de notre espèce, il est en Afrique, il y a 200 000 ans, 300 000 ans, mais il y a 60 000 ans, les premiers sapiens sortent d'Afrique pour peupler le reste de la planète, et là, il faut déjà la première adaptation au froid, par exemple. Les premiers Européens arrivent de l'Afrique, ils doivent s'adapter à des nouveaux climats, le froid, des nouvelles ressources nutritionnelles et de nouveaux pathogènes, par exemple. Et là, les travaux montrent à l'échelle de la planète que la sélection naturelle nous a aidés à mieux survivre face à tous ces changements, à s'adapter au froid en Arctique, par exemple, à s'adapter aux ressources nutritionnelles de l'Arctique, notamment riches en acides gras. Ça, c'est aussi grâce à des changements génétiques qui nous ont permis de nous adapter. Certains changements génétiques aussi nous ont permis de digérer le lait à l'âge adulte. Ça, c'est un des exemples les plus iconiques d'adaptation au milieu, d'adaptation biologique, parce qu'on peut en parler après, mais il y a aussi des adaptations culturelles, et aussi l'adaptation au paludisme en Afrique, aux infections virales en Europe, etc.
Tout ça peut être retracé en étudiant le génome humain des différentes populations. On peut retracer ces adaptations.
C'est-à-dire, on peut retracer ces adaptations à partir de la diversité de nos génomes d'aujourd'hui, d'une part, c'est-à-dire en étudiant toute cette diversité de nous tous ici. On peut, en génétique de population, on sait disséquer la façon dont on s'est adapté aux différents environnements et on sait même dater le moment où tel ou tel changement génétique nous a permis de nous adapter à tel ou tel changement environnemental.
Et avant d'en venir avec vous, Chris Bowler, au reste du vivant qui est quand même énorme, est-ce qu'on peut dire que finalement, pour les populations humaines, notre longue histoire, nos longues histoires des différentes formes humaines, sont une suite d'histoires d'adaptation, de transition et d'adaptation aux conditions environnementales et climatiques?
Tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'on apparaît comme espèce, déjà c'est une première adaptation. Mais après, il y a 60 000 ans qu'on quitte l'Afrique, jusqu'aujourd'hui avec le Covid-19, ce n'est qu'une suite d'adaptations, et toutes ces adaptations sont, entre guillemets, enregistrées dans nos génomes, parce que c'est l'adaptation biologique, c'est l'adaptation génétique qu'elle est transmise. Et aujourd'hui, on peut retracer toute cette histoire d'hommes et de femmes adaptatifs, qui se sont adaptés.
On y reviendra, on reviendra aussi sur l'adaptation culturelle. Chris Bowler, à vous maintenant sur le vivant sur Terre. Vous vous êtes spécialisé sur le vivant sur mer, mais vous connaissez aussi le vivant sur Terre. Là, on est dans des échelles de temps bien plus énormes. Hein. On parle vraiment milliards d'années. Est-ce que là aussi, ce n'est qu'une suite d'histoires d'adaptation, plus ou moins réussies d'ailleurs, aux conditions environnementales et climatiques ?
Oui, absolument. Donc, l'homme, il est sur Terre depuis 100 000 ans, c'est ça ?
200-300 000 ans.
La vie, par contre, existe sur Terre depuis 3 milliards d'années.
Plus de 3 milliards d'années.
Hein. Oui. Donc, le parcours est très long. Et pendant le parcours, certes, la vie s'est complexifiée. La vie, au tout début, c'était très simple, peut-être même juste des molécules d'acide nucléique qui se sont ensuite formées, des cellules. Et petit à petit, la vie s'est complexifiée jusqu'au sommet, si on voulait, de l'homme à la fin. Mais ce n'est pas du tout comme ça, comme s'est passé un parcours graduel de complexité. La complexité, le parcours en général, ça a été un parcours très long et des fois difficile, donc ponctué par les extinctions massives dans lesquelles plus de 40% de la vie disparaissait. Donc le parcours n'a pas du tout été une longue fleuve tranquille.
Ça s'est produit plusieurs fois, on parle de 5 extinctions, d'une 6e extinction aujourd'hui. C'est sur des questions de biodiversité, mais vous êtes d'accord sur le constat ?
Les gens parlent de ça, oui. En gros, il y a 5 extinctions massives qui sont définies par des phénomènes à l'échelle globale qui ont duré typiquement 1 million d'années à peu près avant que la vie se réinstalle sur Terre. Et dans lesquels plus de 90% de la vie disparaissait. Donc certes, la vie qu'on peut enregistrer, qu'on peut visualiser dans les records fossiles, qui n'est pas du tout un record uniforme, constant, parfait. Les traces fossiles, ils sont très, très imparfaits.
Il y en a qu'on trouve et il y en a qu'on ne trouve pas.
Oui. Il s'agit surtout des espèces marines qui en arrivent à distinguer dans les roches, dans les fossiles. Donc, en gros, c'est ça. Il y a 5 extinctions massives, plus de 90% de la vie disparaissait. Mais il y avait aussi plusieurs autres. Il y avait, je pense, les scientifiques, ils ont pu constater plus de 20 extinctions de grande échelle pendant le parcours de la vie sur Terre. Et quelles sont les causes de ces extinctions ? Des fois, ils sont les causes totalement imprévues. Un astéroïde, par exemple, qui arrive depuis l'espace, c'est le plus connu, imprévisible.
Cause d'extinction des dinosaures.
Oui, voilà. Les mouvements tectoniques, les activités volcaniques qui ont changé énormément la concentration de CO2 dans l'atmosphère, autres gaz toxiques, etc. Mais la vie elle-même a aussi contribué aux extinctions massives. Mm-hmm. Par exemple, des microbes méthanogènes qui génèrent du méthane. Méthane, donc, c'est aussi une gaz à effet de serre. Il y avait les moments dans le passé quand les méthanogènes ils se sont proliférés de manière hors contrôle sur la planète, qui a provoqué un réchauffement de la planète. Autrefois, quand le CO2 ou le méthane a été utilisé par les microbes, ça provoquait des chutes de la température. Avec l'effet de créer une terre de boules de neige, snowball earth. La vie aussi participe, et également les plantes que tout le monde adore, les plantes, ils sont aimables de tous les points de vue. Les plantes aussi, ils ont contribué à l'extinction massive du fin du Dévonien. Avant le Dévonien, il s'agit de il y a 400 millions d'années, il n'y avait pas de plantes sur Terre. Il y avait juste des microbes photosynthétiques au sein de l'océan. Ils sont eux qui ont généré de l'oxygène qui a ensuite rendu possible l'évolution des animaux. Et ensuite, la vie est apparue sur Terre. Notamment donc les plantes, et l'expansion des plantes sur Terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que le CO2 a été utilisé dans l'atmosphère pour générer de la matière organique qui est devenue ensuite du charbon qu'on brûle aujourd'hui. Et donc la chute massive de la concentration de CO2 dans l'atmosphère provoquée par les plantes a causé une chute dramatique de la température sur Terre, qui a provoqué donc une extinction massive au fin du Dévonien. Donc, nous, on n'est pas le premier organisme à participer à une extinction massive.
La vie a déjà,
contribué.
Nous a déjà contribué à des extinctions. Est-ce qu'on peut justement, et ça, la question s'adresse à vous deux et rejoint celle qu'on a vue avec les historiens tout à l'heure, en quoi ça peut nous inspirer pour aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des grandes différences dans la rapidité du changement et du réchauffement climatique?
D'abord, la différence, c'est que nous sommes conscients de ce qu'on fait. Les plantes, ils n'étaient pas conscientes, je crois. Et là, je pense que je peux passer la parole à Louis pour le côté conscience.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre? C'est ça, la conscience humaine qui sait ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce regard à la fois sur biologique, sur la vie dans son ensemble énorme et les extinctions auxquelles le vivant a participé, et sur nous, les humains, responsables et aussi victimes de ces changements?
Oui, c'est-à-dire on peut, en génétique des populations, par exemple, on peut disséquer le passé, déjà. La dissection de ce passé de notre espèce, de ce passé d'adaptation à l'environnement, nous aide à comprendre le présent et, en principe, à envisager le futur. Mais c'est un peu naïf aussi parce que on ne sait pas les changements qu'il y aura au futur. Et par exemple, je peux parler de ce que je connais plus, que c'est l'adaptation aux changements associés aux maladies infectieuses, aux pathogènes. Ce qui a été avantageux il y a 40 000 ans, ce qui a été avantageux il y a 10 000 ans, ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Il y a des changements de mode de vie, d'arrivée des nouvelles maladies. Souvent on dit, oui, mais par exemple, est-ce qu'avec l'arrivée des antibiotiques et des vaccins, on n'est pas en train d'altérer la sélection naturelle? Certes, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin du 19e siècle, juste 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, 99% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Donc, on peut altérer les choses, on peut apprendre du passé, mais après, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas maîtriser.
Et en même temps, puisque vous parlez de la question de l'adaptation à des agents pathogènes qui ont pu servir ou pas, il y a évidemment un exemple aujourd'hui où on peut prendre l'exemple du Covid, de cette pandémie qui nous frappe, qui est aussi liée à la population humaine sur Terre, au changement de mode de vie, à la proximité des animaux sauvages, mais qui est aussi liée à des adaptations passées qu'on a héritées d'autres familles humaines ou d'autres formes humaines du passé qui n'existent plus.
Oui, parce qu'une façon de s'adapter à l'environnement, c'est aussi à travers le métissage. C'est-à-dire, quand une population bouge d'un endroit à l'autre, par exemple, prenons l'exemple des ancêtres des Européens. On sort d'Afrique il y a 60 000 ans, on arrive en Europe, et nos ancêtres n'étaient pas habitués, comme je disais, ni au froid, ni aux pathogènes européens. Donc là, ils ont deux options. L'option la plus classique, c'est attendre qu'un jour, une mutation va arriver et ça va permettre de mieux s'adapter au froid. Ce qui est extrêmement difficile, c'est rare dans nos génomes. On appelle ça des balayages sélectifs, c'est-à-dire une mutation qui apparaît, il y a un monte en fréquence dans la population parce qu'elle nous permet de mieux s'adapter au froid, par exemple, ou de mieux résister à une maladie infectieuse. L'autre option...
Et ça, c'est sur une échelle de temps très, très...
Enfin, il faut milliers d'années.
Milliers d'années, c'est
ça. Des milliers d'années. Mmh. Mais il y a une autre option. Les premiers Européens arrivent d'Afrique, mais ils se trouvent sur place où notre forme humaine, qu'elle était adaptée à l'Europe, les Néandertals. Ça faisait au moins 300 000 ans qu'habitaient en Europe. Donc, quoi de plus simple que se démétisser avec les Néandertals et acquérir des Néandertals les mutations qui ont permis aux Néandertals de vivre dans le froid. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Nous savons tous aujourd'hui que tous ceux entre nous qu'on est d'origine non-africaine, entre 2 et 2,5% de notre génome, est d'origine Néandertale. Et la raison pour laquelle ces 2,5% de notre génome est persisté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'en grande partie, il a aidé nos ancêtres à mieux survivre le froid et les maladies virales tout en particulier. Et tout en particulier, les maladies infectieuses d'origine virale des virus ARN, comme le virus de la grippe et le SARS-CoV-2. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, que l'homme quitte l'Afrique il y a 60 000 ans, et il y a environ 40 000 ans, 45 000 ans, 50 000 ans, il se métisse avec l'homme de Néandertal et acquiert, via ce métissage, des mutations qui ont permis aux premiers Européens de survivre au virus ARN. Mais ce qui était avantageux il y a 40 000 ans ne l'est nécessairement plus aujourd'hui. On a changé et de nouvelles maladies sont arrivées. Et c'est vrai qu'il y a un morceau, on va dire, du chromosome 3 dans nos génomes qu'on a hérité de Néandertal, qui est présent dans environ 16% des Européens, c'est des millions de personnes quand même, hein, 50% des Indiens, 62% des gens d'origine du Bangladesh, et ceux entre nous qu'on a ce morceau qui vient de Néandertal, on a 60% plus de chances d'être hospitalisé suite à un Covid sévère. Okay. Mais il y a encore un autre morceau dans un autre chromosome, le chromosome 12, qu'on a aussi hérité de Néandertal. Et là, ça nous protège, ça augmente, ça diminue de 22% nos chances d'être hospitalisé par le Covid sévère. Donc, en général, pour finir sur cette partie de métissage, tout ce qu'il y a de Néandertal à nous est positif. Sinon, ça ne serait plus là. Mais il y a des exceptions, comme celle que vous venez de dire.
Alors, je voulais marquer là-dessus, parce qu'on se rend compte à quel point le métissage est important. Les migrations sont aussi importantes, et je pense, dans tout le vivant. Vous travaillez sur le vivant, et notamment le vivant marin. Vous avez, à travers Tara Océan, essayé de référencer tout le vivant marin, Chris Bowler. Est-ce qu'il y a aussi, comme autre manière d'adaptation, il y a aussi le fait de bouger, de migrer, de changer d'endroit quand la température change, quand...
Absolument, absolument. Dans le milieu marin, c'est fluide, c'est liquide. La migration, c'est même plus facile par rapport à la terre. Mm-hmm. Trouver sur une montagne avec une fleuve devant, c'est difficile de se déplacer pour trouver un autre endroit adapté. Donc la vie marine, surtout, oui, c'est très flexible, adaptable. C'est un phénomène général de la vie. La vie a envie de vivre. Donc la vie trouve toujours, essaie de trouver toujours sa place. L'environnement change et la vie essaie de s'adapter à travers les différents mécanismes de génétique, d'épigénétique, etc.
Et est-ce que la vie, justement, quand vous dites la vie, elle a envie de vivre, enfin, et les organismes vivants, est-ce que justement cette envie de vivre peut permettre de dépasser des périodes de transition, de changement climatique rapide, comme ce que l'on vit actuellement?
Oui, certains organismes, ils sont très robustes, qu'ils arrivent à survivre n'importe quel stress. Autres espèces sont les espèces exotiques qui ont du mal à s'adapter. On ne connaît pas encore pourquoi une espèce donnée a plus de souplesse. On ne connaît pas vraiment les mécanismes génomiques, épigénétiques, etc. Mais on suppose que la base, c'est ça, c'est génétique, c'est une souplesse pour s'adapter à l'échelle d'un génome, pour permettre plus d'adaptabilité au froid, aux autres conditions. Mais la vie en général, c'est extrêmement adaptable. La vie se trouve quasiment partout sur la planète. Il y a très peu d'endroits qui sont vraiment stériles. Très, très peu d'endroits.
Et est-ce que les grands vivants, Luis Quintana Morsi que nous sommes, hein, enfin, il y a des plus grands vivants que nous, mais enfin, les grands vivants que nous sommes, est-ce qu'on peut avoir comme ça aussi des capacités d'adaptation à tout, et notamment au changement climatique, et notamment au changement que nous avons provoqué, que nous continuons de provoquer? Quelle piste d'adaptation sur une échelle de temps rapide? Qu'est-ce qu'on peut imaginer, envisager?
Il y a comme deux façons de s'adapter. Une façon, c'est l'adaptation. Il y a trois façons d'ailleurs, au moins. Une façon, c'est l'adaptation génétique dont je viens de parler. L'adaptation génétique, c'est quelque chose d'extrêmement lent, extrêmement difficile, mais une fois mise en place, c'est très pérenne. 50-60% d'entre nous, on a la mutation qui nous permet de boire le lait à l'âge adulte. Point. Une fois c'est arrivé à 40-50% de la population, c'est extrêmement pérenne, cette adaptation. 90% des gens de l'Afrique centrale, ils ont une mutation qui leur permet de résister au paludisme Plasmodium vivax. Ça ne va pas changer, ça. C'est extrêmement pérenne. Il a fallu des milliers d'années. Donc, l'adaptation génétique, c'est quelque chose de difficile, lent, mais pérenne, stable. Après, on a une façon plus rapide. Je n'aime pas utiliser le mot de s'adapter, de dire adapter ici, parce que l'adaptation, en tout cas en génétique de population, a une connotation d'héritabilité. Que c'est, et c'est pour ça que je dis répondre à l'environnement, avec des changements épigénétiques.
Qui ne se transmettent pas à la génération suivante, qui sont ponctuels dans le temps présent.
L'épigénétique, ça vient du grec au-dessus de la génétique, et ça veut dire tout ce qui va changer la fonction de nos gènes sans changer la séquence d'ADN. Donc, pas héritable. Mais nos travaux, par exemple, au laboratoire, ils ont montré que si vous comparez des populations qui habitent dans la forêt équatoriale, en Afrique centrale, par rapport à des populations dans des milieux ruraux ou urbains, leur épigénome change et notamment touche des fonctions reliées au système immunitaire. Autrement dit, l'urbanisation de ces populations a touché des gènes qui sont principalement impliqués dans la réponse immunitaire. La même chose a été montrée au Maroc en comparant des berbères du désert, ruraux et urbains. Ils ont vu que ça va toucher leur épigénome et que ça peut être même responsable d'une incidence accrue d'allergies. Donc, il y a quelques prix à payer, parfois, de ça. Ça, c'est la réponse épigénétique au changement d'environnement. Et après, il y a les adaptations culturelles. Tout simplement. Si on n'a pas la mutation qui nous permet de boire le lait à l'âge adulte, on n'a que faire un yaourt. Et là, on n'a pas l'enzyme, notre corps, qui permet de métaboliser le lait, le lactose, qu'il faut pour pouvoir le métaboliser, qu'il soit cassé en deux sucres, galactose et glucose. Mais quand vous fermentez le lait, vous faites la même chose. Après, l'adaptation culturelle aux maladies infectieuses, par exemple, les antibiotiques, les vaccins. Là, on ne laisse pas que la sélection se mette en place parce que nous, on est quand même audacieux et ingénieux, donc on va essayer de s'y adapter culturellement, ce que n'empêche pas que même si les microbes ne sont pas conscients, ou on croit, nous, d'un point de vue très anthropocentrique, qu'ils ne sont pas conscients, eux vont dire « Ah oui, tu vas me donner des antibiotiques, donc je vais développer maintenant la résistance aux antibiotiques. »
C'est la réponse du microbe, hein, c'est ça. Exactement. C'est la réponse du microbe. Chris Bowler, justement, puisqu'on est sur les, sur oui, les organismes vivants.
Et donc, les mécanismes dont tu as parlé, les mécanismes génétiques, épigénétiques, ils existent pareil dans les organismes eucaryotes. L'homme, les plantes, les organismes eucaryotes unicellulaires également. L'adaptation culturelle, ça c'est unique à l'homme.
C'est ça. Mais les deux autres, non. C'est-à-dire la réponse génétique qui prend, enfin, l'adaptation génétique qui prend énormément de temps, évidemment, chez tout le vivant, oui. Et la réponse épigénétique ponctuelle, réaction à l'environnement,
ça peut ça aller plus vite, aussi. Exactement. Mm-hmm. Et certes, quand il s'agit d'un organisme qui a une cycle de vie d'un an, par exemple, ça peut aller plus vite, l'évolution, l'adaptation. Quand il s'agit d'un organisme unicellulaire qui prolifère, qui se divise chaque jour, ça peut aller encore plus vite.
Les microbes.
Les microbes, ah. Oui. Donc,
leur adaptation génétique
leur
peut aller très, très vite.
Leur capacité de s'adapter. Donc, l'homme a un cycle de vie plus long et donc l'évolution, l'adaptation prend plus de temps. Mais les mécanismes sont à peu près pareils chez l'homme, chez les plantes, chez les organismes, chez la levure, chez le phytoplancton au sein de l'océan, etc.
Donc même mécanisme, je vous interromps, même mécanisme, mais aussi parce que vous étudiez évidemment les écosystèmes, et on n'en a pas parlé, on parle des humains, des microbes, des eucaryotes, voilà, mais tout ça, c'est ensemble. Donc comment est-ce qu'on peut maintenant, peut-être grâce aux pistes de la génétique, de toutes ces études du vivant, en tant qu'écosystème, réfléchir à des adaptations, parce que du coup, dans un écosystème, ça donne peut-être plus de perspectives, mais aussi quand on touche un élément ou qu'on en modifie un, ça modifie le reste.
Oui, tout à fait. Et ça reste encore une défi. À travers les recherches des dernières décennies, on a beaucoup compris des mécanismes génétiques, épigénétiques, qui fonctionnent à l'intérieur d'une cellule. Par contre, quelle est la place de ces mécanismes au sein d'un écosystème? Comment les organismes interagissent entre eux? Comment ça fait que l'écosystème fonctionne dans son ensemble? Là, on a encore beaucoup de choses à découvrir qu'on ne maîtrise pas pour le moment. Certes, les écosystèmes, ils sont en principe stables, ils sont en principe robustes. Un écosystème sain, c'est stable, c'est robuste. Un écosystème sain, typiquement, c'est riche en biodiversité. Mais s'il y a trop de biodiversité, l'écosystème marche moins bien, généralement. Il y a les liens entre la biodiversité d'un écosystème et le fonctionnement d'un écosystème.
Ni trop, ni trop peu. Enfin...
Oui, c'est complexe. On ne connaît pas encore les règles. Et c'est complexe et ça dépend quel écosystème il s'agit. Un écosystème agricole, c'est différent par rapport à un écosystème forestier, peut-être. Un écosystème marin ne marche pas forcément dans la même manière qu'un écosystème terrestre. Donc, il y a beaucoup de choses à maîtriser encore. Mais je trouve ça fascinant, car en fin des comptes, c'est les mécanismes cellulaires, génétiques, épigénétiques, etc., qui marchent également à l'échelle écosystémique.
C'est ça qui est étonnant, c'est vraiment de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et quand on parle d'écosystème et de l'écosystème Terre, les humains ont un rôle énorme, et ils sont eux-mêmes aussi en constante relation avec l'écosystème qu'ils ont créé. Ils ont pour partie, ils sont en relation avec eux. Est-ce que ça se voit, ça aussi, enfin, quand on parle d'épigénétique, on parle aussi de questions de réponse à l'écosystème, c'est ça, Louise Quintana?
Oui, mais ce qui montre plus généralement, même sans parler d'épigénétique et juste en parlant de génétique, l'espèce humaine, elle s'est adaptée à des environnements extrêmement variés et des environnements invivables parfois. Voyons que les humains se sont adaptés à la vie en forêt équatoriale, par exemple. C'est des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes. C'est pour ça que la plupart des populations habitant dans les forêts équatoriales sont plus petites de taille. Ils ont une taille plus petite parce que ça leur permet d'avoir moins de surface pour perdre l'énergie. Les humains se sont adaptés à des vies de conditions extrêmes d'hypoxie, c'est-à-dire manque d'oxygène. Au Tibet, dans les hauteurs de l'Éthiopie, dans les Andes, en Amérique du Sud, à quelques milliers de mètres au-dessus de la mer, l'oxygène est en 40% de moins d'oxygène. Donc les Tibétains se sont adaptés à cette vie extrême que c'est manque d'oxygène. Et il y a d'ailleurs, dans le cas des Tibétains, par rapport aux Éthiopiens, par rapport aux Amérindiens de l'Amérique du Sud, la nature est quand même sage parce que la façon dont ils se sont adaptés à ces conditions d'hypoxie n'est pas la même. Il y a différentes trajectoires évolutives pour arriver à la même chose, que c'est pouvoir vivre sans oxygène. Il y a une autre forme aussi que je trouve quand même incroyable, que c'est il y a un peuple en Amérique du Sud, en Indonésie, qui s'appelle les Bajo, les nomades de la mer, qui peuvent, nous, qu'est-ce qu'on résiste sous l'eau? 1 minute, max. Eux peuvent rester 13 minutes sans respirer. Eux sont des pêcheurs. Ils passent environ 60% de la journée sous l'eau. Et ils ont développé une adaptation génétique que longtemps on pensait que c'était ce qu'on appelle la plasticité phénotypique, que c'est genre l'épigénétique, quelque chose de... Mais non, c'est une adaptation génétique. Ils ont la rate plus grande. Et cette rate de taille plus grande est sous contrôle génétique. Et c'est simplement que la rate expulse plus de globules rouges, plus oxygéné, et ça leur permet de résister 13 minutes sous l'eau.
C'est complètement fascinant. Est-ce qu'on peut imaginer, non pas s'en inspirer, on comprend bien que c'est sur des échelles de temps très longues que se peuvent se dérouler ces adaptations, mais est-ce qu'on peut s'en inspirer? Est-ce que l'espèce humaine est une des plus adaptables, adaptatives, je ne sais pas comment il faut le dire, par rapport au reste du vivant, Louis ou Chris?
L'homme est aussi créatif. L'homme, il s'adapte à travers les mécanismes culturels. L'homme s'est appris comment s'habiller pour se protéger contre le froid. Les vaches, les autres animaux, ils font pas ça. L'homme a appris comment construire les maisons. Pour vivre, pour vivre bien contre le froid, la chaleur, etc. Et ça c'est spécifique pour l'homme, n'est-ce pas?
Oui, c'est l'adaptation culturelle.
Oui, qui va très, très vite.
Après, mais qui en même temps, plus... pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire que c'est ça qui aussi nous amène où on en est aujourd'hui. Parce que c'est vrai que là, du coup, on est plus optimiste, on se dit, mais donc on peut s'adapter, on a su s'adapter, on est créatif. Est-ce que ça suffit? Qu'est-ce que vous en pensez là, de ce côté-là?
Et avec cas dramatique, par exemple, on pourrait dire, oh, c'est pas très grave, je sais pas quel est le pays, c'est au Pacifique. Vous connaissez ce pays que dans 10 ans, 20 ans, si ça continue comme ça, ce pays disparaîtra.
Il y en a plusieurs.
Voilà, là c'est très défaitiste, mais dit, bon, c'est pas grave, ils ont qu'à aller vivre dans un autre pays. Mais non.
Oui, il n'y a pas de piste de ce côté-là. Est-ce que, pour des généticiens comme vous, sur le vivant, sur l'humain, est-ce que la notion de transition, puisqu'il y a transition et adaptation, transition, est-ce que ça a un sens pour vous? Est-ce qu'il y a des périodes de transition où on peut évoluer vers autre chose? Est-ce qu'on est dedans?
Bien sûr. Par exemple, une des plus grandes transitions qu'on a vécues dans l'histoire de l'humanité, c'est le passage de chasseurs-cueilleurs nomades à agriculteurs sédentaires. Ça commence il y a 10 000 ans, dans différents endroits de la planète, c'est-à-dire l'émergence d'un mode de vie agriculteur. Ce changement de mode de vie a complètement bouleversé notre relation à l'environnement chimique, à l'environnement nutritionnel, parce qu'on a appris à créer de la nourriture, et donc ça a fait que les populations ont beaucoup plus grandi, parce qu'ils pouvaient créer la nourriture au lieu de dépendre de la chasse ou de la cueillette. Ça changeait nos relations aux animaux, donc la domestication des animaux, donc des zoonoses. Et voilà, donc. Mais quand il y a eu cette grande transition, on sait qu'au début, il y a eu toute une période de maladaptation.
Maladaptation.
Oui. Maladaptation, ça veut dire qu'au début, il faut se réadapter pour après se adapter à l'environnement.
Voleur, vous voulez ajouter quelque chose?
Je dirais même les transitions, c'est normal, c'est quelque chose de normal dans l'environnement. L'environnement change, les organismes ils doivent s'adapter, c'est quelque chose de plutôt normal dans le système. Et voilà, la vie a appris comment faire face à ça. Certes, il y a la transition dépend toujours de quel état on passe d'un côté à l'autre. Ça peut être voilà très difficile, ça peut être plus facile, mais c'est quelque chose de normal dans l'histoire de la vie sur Terre. Et certes, avec la domestication, l'agriculture, la révolution dans l'agriculture provoquée par l'homme, ça, les organismes, ils ont dû s'adapter également. Les écosystèmes, ils ont changé, car voilà, les forêts, ils ont été éliminées, plusieurs écosystèmes, ils ont été modifiés totalement. Et pour certains organismes, ils ont appris comment s'adapter, et pour autres, beaucoup moins bien. Les mammouths, les autres mésofaunes, ils ont disparu. Et les pigeons, les rats, ils ont trouvé comment vivre avec nous. Et les pathogènes, certains zoonoses, par exemple, ils ont pu profiter de notre voisinage avec les animaux domestiqués pour...
Qui va en profiter, là? Parce qu'en fait, on se dit, pour vous qui avez ce recul du temps long, effectivement, que des espèces sont apparues, ont disparu, même des autres formes d'espèces humaines sont apparues, ont disparu, lesquelles vont en profiter? Et est-ce que vous regardez ça, évidemment qu'on est partie prenante, mais en même temps avec un autre recul, ou en disant, voilà, c'est une période de transition dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous serons. Comment vous regardez ça, tous les deux, avec ce recul du temps?
Moi, c'est une transition. Et moi, je suis de nature optimiste, donc je pense que ça soit biologique, culturellement, on s'en sortira.
On s'adaptera.
Ouais.
Et ceux qui ne s'adapteront pas, ne s'adapteront pas. Chris Bowler, alors vous, sur la vie et le vivant, s'en sortira.
Nous sommes une espèce extrêmement créative. Donc, nous savons faire énormément de choses. Nous savons s'adapter. Donc, j'ai du mal à comprendre la disparition de l'homme d'aujourd'hui à demain. S'il y a cet événement, comment ça va se passer? J'ai du mal à comprendre ça. Je pense que l'homme, il va toujours trouver comment survivre. Mais certes, en ce moment, on est trop nombreux et on consomme beaucoup, beaucoup trop. Donc, quand je dis que l'homme va survivre, je ne vois pas comment l'homme peut survivre dans son état actuel. La population va abaisser beaucoup, probablement, dans les siècles à venir. Certains, il y aura des victimes, c'est sûr. Toujours les populations les moins privilégiées.
Les moins privilégiées, les plus vulnérables, hein, toujours.
Absolument. Mmh. C'est malheureux, c'est dommage, mais c'est toujours comme ça. Donc, je pense que l'homme sera toujours là dans 500 000 ans.
Vous pensez ça, Christophe?
Mais dans son état actuel, non, j'y crois pas.
C'est pas la première fois qu'il y a des formes humaines qui sont disparues. Ouais. Par exemple, les Néandertals sont disparus. L'homme de Denisova, que c'était le cousin néandertal, des Néandertals à Nazé, sont disparus, on pense, il y a 20-30 000 ans aussi. Et alors, beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi sont disparus? Et moi, j'aime beaucoup la réponse qu'une fois Jean-Jacques Hublin, donc professeur aussi au Collège de France, avait donné, qui a dit, c'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est pas pourquoi les Néandertals sont disparus ou pourquoi les Denisova sont disparus. La bonne question, c'est pourquoi, où qu'aille Sapiens, toutes les autres espèces disparaissent. Sapiens, dans notre espèce, est une espèce invasive. On est partout. Et dès que Sapiens va en Indonésie, l'homme de Flores disparaît. Dès que Sapiens arrive en Europe, Néandertal disparaît. Dès que Sapiens va en Asie, Denisova disparaît. Dès que Sapiens rentre en Philippines, l'Homo luzonensis disparaît aussi. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il arrive avec ces Sapiens.
Et pareil, les mégafauna, les mammouths, les autres.
Donc nous sommes une espèce invasive. Donc, quoi ? Soit on s'en sortira toujours, soit il y a plus invasif que nous qui prendra le dessus.
Oui, mais pour l'instant, ça n'existe pas.
Pour l'instant, ça n'existe pas. C'est nous, hein, l'espèce invasive. Je pense que c'est un bon moyen d'engager peut-être les questions parce que le temps avance. Est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, on peut continuer, hein, évidemment, notre échange ou nos dialogues. Mais peut-être que ça soulève des questions.